Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sexisme opère encore. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 août 2025 dans La Presse. La proportion de femmes parmi les chirurgiens a plus que doublé depuis 30 ans au Canada. Mais ce domaine est toujours soumis à des préjugés sexistes qui minent la carrière des chirurgiennes selon une nouvelle étude montréalaise. Quand je faisais mes études en médecine, j'ai senti que les chirurgiennes se comportaient différemment des chirurgiens, explique Gillian Schneidman, qui publiait son étude début juillet 2025 dans l'American Journal of Surgery. Je ne sentais pas la même différence de comportement dans d'autres spécialités. Pourtant, la proportion de femmes en chirurgie augmente sans cesse. Elle a consacré sa maîtrise en anthropologie médicale à ce sujet. La docteure Schneidman, qui vient de commencer à travailler comme chirurgienne, a recueilli de longs témoignages de 6 chirurgiennes. 3 problèmes sont devenus apparents. Les instruments sont conçus pour les mains plus grandes des hommes, les femmes se font référer des cas moins susceptibles de mener à des chirurgies et elles doivent adopter l'assurance typique des chirurgiens sans avoir l'air agressif. Le problème des instruments devrait être facile à régler, dit-elle, mais les autres points sont plus subtils. C'est bien illustré par le fait qu'on appelle toujours les chapeaux chirurgicaux « chapeaux d'homme »,« men's cap ». Souvent, on va référer aux chirurgiennes des cas où il va falloir passer plus de temps à parler avec le patient, par exemple, s'il n'est pas clair qu'une chirurgie est indiquée. Pour changer cela, il faut redéfinir ce qu'est un succès dans une carrière de chirurgien. Des biais défavorables. Des chirurgiennes qui n'ont pas participé à l'étude confirment ces observations. Souvent, je passe du temps avec un patient pour lui expliquer la chirurgie qu'on va faire et à la fin, il me demande qui va m'opérer, explique Stéphanie Leclerc, chirurgienne depuis 3 ans au CHU de Québec. Ou alors, je passe voir un patient avec un stagiaire qui a l'air beaucoup plus jeune et le patient répond à ma question en s'adressant au stagiaire, en l'appelant docteur. Et aucun collègue masculin ne se fait appeler mon beau par des infirmières ou des préposés. J'ai des collègues et une équipe extraordinaire, je suis sûr que ce n'est pas volontaire. Récemment, la docteure Leclerc a entendu un chef de service dans la quarantaine expliquer à une résidente qu'engager une chirurgienne n'était pas attractif parce qu'elles allaient éventuellement partir en congé de maternité. J'ai dit à la résidente qu'elle devrait faire une plainte, mais elle ne voulait pas se faire d'ennemis, relate-t-elle. C'est sûr que la chirurgie, poursuit-elle, c'est difficile pour la qualité de vie. Si j'ai un patient qui saigne la nuit, je ne peux pas attendre le matin. Les chirurgiennes enceintes opèrent parfois jusqu'à la veille de l'accouchement. Elles doivent monter sur un petit banc pour ne pas que leur ventre soit dans le chemin. La docteure Leclerc ajoute que sa conjointe, qui est urologue, observe aussi les mêmes difficultés parce qu'il s'agit d'une spécialité fortement masculine. José Gagnon, chirurgienne depuis 30 ans au CHU de Québec, a vécu le même type de comportement. Il y a dans l'inconscient collectif l'idée qu'un chirurgien, c'est un homme, souligne-t-elle. Et ceci amène un traitement légèrement différent des femmes chirurgiennes de façon inconsciente. Mais il y a tellement d'autres priorités qu'on ne s'occupe jamais de cette question des biais défavorables aux femmes. J'ai été chef de département et je n'ai jamais eu de plainte de filles qui estimaient avoir été traitées injustement. Et, souligne-t-elle, il y a maintenant des patients qui préfèrent une chirurgienne parce qu'ils ont l'impression qu'on est plus minutieuse. Encourager les femmes à choisir cette spécialité pourrait d'ailleurs avoir des effets bénéfiques. Selon une étude canadienne publiée en 2024 dans le British Journal of Surgery, les chirurgiennes ont un taux de complications majeures de 17 % inférieur à la moyenne chez leurs patients. Table trop haute. les docteurs Leclerc et Gagnon confirment le problème de la taille des instruments. « Et les tables d'opération sont souvent trop hautes », ajoute le docteur Leclerc. « Je fais 5 pieds 4 pouces et je dois monter sur un petit banc. Ce n'est pas normal. » Les instruments plus petits existent. Mais très souvent, les représentants des entreprises qui les fabriquent ne pensent même pas à en offrir aux hôpitaux, selon Nancy Baxter, une chirurgienne torontoise qui a publié en 2020 dans JAMA Surgery une étude montrant que les médecins hommes sont plus susceptibles que les femmes de référer leurs patients à des chirurgiens plutôt qu'à des chirurgiennes. Bizarrement, les représentants d'instruments et appareils chirurgicaux sont souvent d'anciens athlètes, dit la docteur Baxter. Ces grands gars arrivent à l'hôpital et discutent fort de sport avec les chirurgiens. Cette camaraderie virile exclut les chirurgiennes. C'est surréel. La docteur Baxter rapporte aussi avoir été souvent prise pour une infirmière si elle visite un patient. Mais au moins, on me prend pour une soignante. Les chirurgiens noirs souvent se font prendre pour des concierges, confie-t-elle. Maintenant directrice adjointe d'un hôpital universitaire en Australie, elle estime tout de même qu'il y a moins de discrimination envers les femmes en chirurgie au Canada qu'ailleurs dans le monde. Même en Scandinavie, c'est pire qu'au Canada. C'était « Le sexisme opère encore », un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 août 2025 dans La Presse.
Du bon usage de la tribune des députés. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 16 juillet 2025 dans La Presse. Allons-y avec une bonne nouvelle. Le travail du député solidaire Guillaume Clich-Rivard a porté ses fruits. Le gouvernement du Québec va réviser son règlement sur l'attribution des logements à loyer modique pour permettre la colocation. C'était une demande d'associations de locataires. Permettez aux gens habitant en HLM d'avoir des colocs. Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne a utilisé son porte-voix de l'Assemblée nationale pour relayer cette bonne idée qui ne coûtera rien au Trésor public. Québec a annoncé, mercredi le 16 juillet 2025, que le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique serait modifié. On va baliser la colocation. C'est une excellente chose. Il y a 2 mois, sous l'impulsion du député Guillaume Clich-Rivard, j'avais donné la parole à 2 femmes pour qui une modification aux règles de colocation en HLM serait une véritable bouée de sauvetage. Le député m'avait aussi parlé d'un cas classique. Dans le bas du fleuve, une femme, bénéficiant d'un HLM, était prête à accueillir en colocation sa sœur, qui venait de perdre son logement et qui n'en trouvait pas. Au sens strict, la sœur de cette femme était sans abri. Lui permettre d'habiter avec sa sœur lui évitait la rue. Réponse des autorités municipales, qui gèrent une immense partie des logements sociaux québécois, non. Non, parce que le règlement du gouvernement québécois l'interdit. Guillaume Clich-Rivard avait fait cette observation. La dernière année a vu une hausse de l'itinérance de 15% au Québec. Et la première cause de fabrication de sans-abri est, justement, la perte d'un logement. Cette décision du gouvernement du Québec n'est pas la solution à la crise du logement qui sévit chez nous. Il faut le dire, le redire. Il faut dénoncer les obstacles, trop nombreux, à la construction de logements. Mais permettre la colocation en HLM est un coup de pouce qui risque d'aider beaucoup de gens. Il faut saluer le gouvernement là-dessus. Je veux aussi saluer l'initiative du député Guillaume Clich-Rivard. Cette cause l'interpelle, car dans sa circonscription se trouve le quartier de la Petite-Bourgogne où on compte le plus grand nombre de HLM au Québec. Les citoyens qui déballent dans son bureau leur récit de vie, sur le point de basculer dans l'itinérance, il connaît. La croisade du député solidaire nous rappelle que les députés de l'Assemblée nationale ont un pouvoir d'action et d'influence, qu'ils soient ministres ou pas, membres de l'équipe gouvernementale ou pas. Le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a mis de l'avant les préoccupations de milliers de parents qui sont inquiets de l'impact des écrans sur leurs jeunes, menant à une commission d'enquête des députés sur le sujet. La libérale Marois Risky n'a eu de cesse de talonner le gouvernement sur les abus sexuels dans les écoles. Son collègue, Moncef Deraghi, a fait un solide travail de pédagogie sur les rouages du scandale SAAC-CLIC. Les députés peuvent utiliser leur tribune pour faire connaître des enjeux méconnus ou des angles morts de l'action gouvernementale. Il n'en tient qu'à eux d'utiliser ces ressources et leur visibilité pour provoquer des changements sur des sujets qui, sinon, ont de la misère à trouver de la lumière. Le cas le plus célèbre et le plus spectaculaire d'une députée qui a utilisé sa tribune pour provoquer des changements percutants dans la société, Véronique Yvon, députée péquiste, qui fut la bougie d'allumage pour le mouvement de consultation qui a permis de trouver une piste d'atterrissage social pour l'aide médicale à mourir. Députée de l'opposition officielle, elle a catalysé avec ses collègues un changement social majeur après consultation des Québécois. Ottawa a suivi dans la foulée après des années de paralysie. Je sais que pour une partie de la base militante de Québec solidaire, le combat réussi de Guillaume Clich-Rivard pour la colocation en HLM, c'est le genre de petit gain qui ne fait que montrer que le système ne fonctionne pas. C'est le discours de l'ex-députée Catherine Dorion pour qui les députés ne sont que des plantes vertes qui ne peuvent rien changer. Jamais. Guillaume Clich-Rivard est la preuve vivante, parmi mille, que ce discours est faux. Il a convaincu le gouvernement de changer des règles qui vont avoir de grands impacts dans la vie de certains de nos concitoyens les plus vulnérables. C'était « Du bon usage de la tribune des députés », un texte de Patrick Lagacé paru le 16 juillet 2025 dans La Presse.
Quelle est la durée de vie d'une éolienne? Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir. Les parcs éoliens sont appelés à se multiplier dans les prochaines années au Québec afin d'accroître pour des décennies à venir notre production d'électricité. De quels matériaux une éolienne est-elle constituée et quelle est sa durée de vie? Demande Louis Lemoine. Bien qu'une éolienne soit conçue pour durer de 20 à 30 ans, il n'est pas impossible qu'elle brise prématurément malgré un entretien rigoureux. Et remplacer une turbine défectueuse peut coûter plusieurs millions de dollars, note Hydro-Québec. La société d'État n'achète généralement pas une seule éolienne à la fois, mais des projets entiers via des appels d'offres. Toutefois, même si l'ancien président directeur général d'Hydro-Québec, Michael Sebia, a annoncé en 2024 un plan pour que la société d'État soit maître des grands projets éoliens au Québec, les initiatives de moindre envergure continuent d'être confiées à des promoteurs privés. Ces derniers signent des contrats de longue durée pour fournir de l'électricité au réseau public et doivent généralement assumer eux-mêmes l'entretien et le remplacement de leurs turbines. Mais combien coûte concrètement une éolienne? À titre d'exemple, prenons le cas du parc Apuyat sur la Côte-Nord. Dans un document publié en mai 2025, on estime le coût de chaque mégawatt produit à environ 3 millions de dollars. Puisque les éoliennes choisies pour le projet produisent en moyenne 6 mégawatts, on peut en déduire que chacune représente un investissement d'environ 18 millions de dollars. Cette somme comprend non seulement la turbine elle-même, mais aussi les coûts liés à son transport, à son installation, à ses fondations et à son raccordement au réseau. La question des déchets. Qu'advient-il des turbines qui atteignent la fin de leur cycle de vie? Peut-on les recycler? Selon Hydro-Québec, environ 90% des composantes d'une éolienne sont recyclables. Les mâts sont faits majoritairement d'acier et de béton, des matériaux relativement simples à récupérer et à revaloriser. Le défi se pose plutôt du côté des pales. Elles sont faites de fibres de verre ou de carbone, des matériaux légers et résistants, mais difficilement réutilisables. Pour l'instant, la majorité des pales usées finissent dans des sites d'enfouissement, admet la Société d'État. Elle affirme toutefois surveiller de près les avancées vers une fabrication plus durable des pales, en collaboration avec les développeurs de parcs éoliens et les manufacturiers. Par ailleurs, bien qu'elle suscite un intérêt croissant depuis quelques années, la production d'énergie éolienne n'est pas nouvelle au Québec. Les premiers appels d'offres en la matière remontent à 2003 et, depuis, des dizaines de projets ont été mis sur pied un peu partout sur le territoire. C'était « Quelle est la durée de vie d'une éolienne ?» un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir.
Peut-être le temps est-il venu de faire le point. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 27 août 2025 dans le magazine Fugue. La dizaine de jours censés célébrer la fierté de la diversité des genres et des orientations sexuelles a offert cette année un spectacle pour le moins désaccordé. Plus qu'un concert cacophonique, un joli capharnaüm où la confusion régnait, où les annonces contradictoires, les défections d'organismes et les hésitations à peine voilées ont alimenté un sentiment de chaos. Chacun, chacune devait choisir entre le défilé officiel de Fierté Montréal, la marche de la fierté indomptable ou encore l'option de rester chez soi, perplexe, à se demander ce que tout cela voulait dire. Le feu couvait déjà depuis l'an dernier. Certains groupes queer avaient attiré l'attention en dénonçant la présence de collectifs juifs au défilé, au nom de l'intersectionnalité et de la solidarité avec la Palestine. Bien évidemment, personne ne s'imagine défendre le gouvernement israélien ni son offensive sanglante à Gaza. Dénoncer les exactions de Netanyahou n'est pas une mauvaise chose en soi. Militer pour un État palestinien relève d'une légitime revendication de justice. Rappeler que nos communautés LGBTQ+ ne restent pas indifférentes à ce drame international était une idée noble. Encore faut-il que ce désir d'élargir nos horizons géopolitiques se conjugue avec la même énergie lorsqu'il s'agit de dénoncer d'autres régimes, arabes, africains, asiatiques ou occidentaux, qui piétinent les droits des femmes, des personnes queer et trans au nom d'une religion, d'un nationalisme ou de purs intérêts économiques. Car si le cri pour Gaza résonne haut et fort, il faudrait que la même indignation s'élève contre l'Ouganda, la Russie, la Hongrie, l'Arabie saoudite ou tout autre État où la haine des minorités sexuelles et de genre demeure un instrument politique. Autrement, on risque de donner l'impression d'une indignation sélective, ou pire, d'une instrumentalisation des luttes LGBTQ+. Oui, un bilan doit être fait. Mais pas sur la place publique, en cherchant des coupables faciles. Les hésitations de Fierté Montréal, exclure puis réintégrer les groupes juifs, ne peuvent pas être interprétées comme une caution tacite des massacres à Gaza. L'affaire était certes mal gérée, confuse, mais y voir un silence complice est injuste. Les véritables responsables des drames humains se trouvent ailleurs, du côté des dirigeants politiques, pas des organisateurs d'un défilé queer. Il n'en demeure pas moins que nos communautés sortent de cette fierté divisée, abîmée, parfois perdue. L'exclusion, puis le volte-face, ont ébranlé la confiance. Et la décision du Conseil québécois LGBTQ+, d'appuyer la marche des Indomptables à la place de Fierté Montréal, prise à la hâte quelques jours avant le défilé, a ajouté à la confusion. Avec pour résultat un patchwork où, parmi les 80 organismes membres du Conseil, chacun a choisi son camp. Défiler avec les uns, avec les autres, participer à une journée communautaire ou les deux, ou carrément s'abstenir. Ce n'est ni la première ni la dernière crise que nous traversons au sein de nos communautés, mais peut-être serait-il temps d'appuyer sur pause et de faire collectivement le point. Une question s'impose. Quel est aujourd'hui le rôle du Conseil québécois LGBTQ+? Officiellement, il est un interlocuteur privilégié des gouvernements. Mais quel est son véritable poids politique? À quelle voix donne-t-il réellement écho? Aux voix locales ou aux enjeux internationaux ou intersectionnels non liés directement aux communautés LGBTQ+? La question mérite d'être posée. On se rappellera la crise vécue par Interligne en 2023, lorsqu'un organisme même du Conseil et vital pour nos communautés a subi de lourdes coupures budgétaires. Le Conseil a bien soufflé un faible « ce n'est pas bien », sans jamais hausser le ton ni tenter de mobiliser collectivement. Résultat, Interligne s'est battu seul. Scénario semblable avec le fameux comité de sages, mis en place par Québec pour réfléchir à la façon d'encadrer et d'aider les personnes non-binaires et en transition, un comité sans aucune personne trans à sa table. Le Conseil s'est contenté de rappeler qu'il serait consulté, comme si cette promesse suffisait à légitimer le comité. Quelques mois plus tard, avant la diffusion du fameux rapport du comité des sages, on en a finalement dénoncé la teneur, les a priori contestables, les conclusions qui allaient venir, mais il était trop tard. Les dés étaient jetés et la contestation sonnait crue. On me répète souvent que le Conseil entretient de bonnes relations avec les ministres et que ce dialogue est important pour influencer les politiques qui touchent les communautés LGBTQ+. Soit, mais à force de ménager les élus, on sacrifie aussi un peu de l'essence militante de nos luttes. La frilosité du comité ne tient-elle pas au fait qu'une partie du financement des organismes dépend directement du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie? Comment hausser le ton quand on craint pour les budgets de fonctionnement? Les petits organismes, eux, n'ont pas ce dilemme. Moins financés, moins visibles, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner à adopter des postures militantes plus radicales. Mais voilà, ce sont souvent les grands organismes, mieux établis, qui dominent la conversation. Et l'impression de certains, certaines, grandit que la solidarité se fragilise, que chacun cultive principalement son jardin. Il est vrai que la configuration a changé. Beaucoup d'organismes LGBTQ+, sont aujourd'hui des organismes de service plus que de lobby. Ils remplissent une mission essentielle avec professionnalisme et efficacité. Mais la réflexion politique, la mobilisation collective, semble avoir été reléguée au second plan. Le Conseil québécois LGBTQ+, qui a pris le relais de la table de concertation des lesbiennes et des gays du Québec, n'est plus la voix militante qu'elle a déjà été. Il est devenu un relais institutionnel des organismes. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais ce glissement laisse sur le carreau une nouvelle génération de militants, militantes, qui ne se reconnaissent pas nécessairement complètement dans ces structures établies. Ils et elles réclament des positions plus fermes, une solidarité plus active sur de nouveaux enjeux intersectionnels, pas toujours liés aux communautés LGBTQ+. Des clivages se creusent, accentuant l'écart entre institutionnalisés et radicaux. La Fierté 2025 aura au moins eu ce mérite, de rebattre les cartes. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. L'erreur serait de laisser la poussière retomber pour mieux la balayer sous le tapis. Pour éviter que l'histoire se répète, il faut tirer des leçons. Cela suppose d'accepter une rencontre franche entre toutes les parties, les pro-Fierté Montréal, les pro-Indomptables, le Conseil québécois LGBTQ+, les militants, militantes de terrain, les simples citoyens, citoyennes, en personne, pas à travers les réseaux sociaux. Sans posture défensive, sans égo surdimensionné, avec l'envie réelle de trouver une stratégie commune, surtout lorsque nous sommes appelés à nous prononcer sur des enjeux dépassant nos réalités immédiates. Car répéter « so-so-so solidarité » dans la rue n'aura jamais le même poids que d'incarner concrètement ce mot. Sans doute qu'un médiateur, une médiatrice serait nécessaire pour convoquer ce grand bilan. Un espace où se rencontreraient les représentants, représentantes d'organismes, des chercheurs, chercheuses, des élus, mais aussi des citoyens, citoyennes LGBTQ+ ordinaires. Ce serait une occasion unique de redonner ces lettres de noblesse au mot « solidarité », trop souvent galvaudé. Car au fond, le moment est venu, non pas de choisir un camp, ni de rejouer sans fin la même querelle, mais de réfléchir ensemble à ce que nous voulons bâtir. Si la Fierté 2025 a révélé une chose, c'est que nos communautés ne peuvent plus avancer en ordre dispersé. L'avenir de nos luttes dépendra de notre capacité à transformer ce chaos en tremplin. C'était « Peut-être le temps est-il venu de faire le point ». Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 27 août 2025 dans le magazine Fugue.